Mohamed VI, ouais, j'ai déjà entendu parler, mais...
Mohamed VI ?
Ah, le roi du Maroc.
Bah moi, vous savez, j'ai une vision d'étranger.
Eh oui.
Donc, en tant qu'étranger, je vois un souverain qui règne sur son pays et qui le fait avancer à grande vitesse. Et c'est très bien.
Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un pincement au cœur que je vous accueille aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen, car autant les précédents épisodes sur le burn-out militant, le pétrole ou le cortex n'auront pas d'incidence directe sur ma vie personnelle, autant aujourd'hui, en s'attaquant à Mohamed VI, le mystérieux roi du Maroc, en donnant la parole à un journaliste qui a enquêté sur lui, je compromets gravement mes prochaines vacances à Marrakech. J'ai bien peur en effet qu'à la suite de cette émission qui s'annonce très critique à l'encontre de Mohamed VI, les portes de cette auberge conviviale où j'ai mes habitudes, la Mamounia, ne me ferment définitivement ces portes. Je n'entrerai probablement plus jamais, ou alors si j'y entre, j'en sortirai les pieds devant, plutôt les babouches devant, puisque là-bas, le room service vous met chaque matin une paire de babouches neuves pour pouvoir accéder au spa, qui est d'ailleurs d'excellente facture. Bref, fallait-il faire cette émission ? J'étais déchiré, vous l'imaginez ? Le Mathieu de droite, attaché à son confort et à son train de vie, me disait « Non, t'es con, fais pas ça, il est super Mohamed VI, et puis pense aux petites cornes de gazelle au safran du buffet continental. » L'autre, le Mathieu de gauche, s'insurgeait « Comment ? Comment ? Mais quelle honte ! Tu renoncerais à dire la vérité sur Mohamed VI par peur de représailles ? Ce n'est pas le Mathieu que j'ai connu quand tu militais à l'UNEF. Vous vous en doutez, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que, je dirais une fois de plus, dans cette lutte fratricide qui se joue au cœur de mon cerveau, c'est le Mathieu Noël de gauche qui l'a emporté. Oui, vous pouvez applaudir, vous pouvez applaudir. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Thierry Oberlé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur France Inter. Vous êtes journaliste spécialiste du Maghreb et du Proche-Orient, ancien grand reporter au service international du Figaro. Et vous avez sorti hier la biographie d'un des souverains les plus puissants d'Afrique, l'un des plus riches au monde, mais aussi l'un des plus mystérieux, Mohamed VI, le mystère. C'est d'ailleurs le titre de votre livre paru chez Flammarion. Vous allez tout nous dire de ce roi du Maroc qu'on dit distant, qu'on dit malade, dont vous qualifiez le règne d'opaque. Personnellement, je ne me permettrai jamais, mais ce sont vos mots. Vous allez tout nous expliquer, juste le temps de vous présenter mes fidèles acolytes, deux journalistes qui, comme vous, Thierry, connaissent bien le monde arabo-musulman, n'est-ce pas Quentin ?
Arabo-musulman.
Bien. Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
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 Bonjour à tous.
C'est la voix de Jean Dujardin.
Oui, mais c'est bien. Vous avez mué, je dirais, enfin.
Comme beaucoup de gens dans cette émission.
C'est ça. À vos côtés, Thierry, elle connaît en réalité assez peu le Maroc, un pays qu'elle n'a même jamais songé à visiter. Pas assez loin. Celle qu'on surnomme Madame Carbone ne privilégie que les pays qui sont à plus de 4 heures d'avion. En dessous, ça ne l'intéresse pas. Manon, dans votre pièce jointe aujourd'hui.
J'y suis déjà allée plein de fois. Mais bon, passons un événement aujourd'hui. Il y a 15 ans, les pays arabes étaient secoués par une véritable révolution, celle qu'on a appelée le printemps arabe, retour sur ces manifestations portées par une jeunesse révoltée.
Et vous, aurez-vous le courage de dire vraiment au micro d'Inter ce que vous pensez du règne de Mohamed VI ? Renonceriez-vous à un séjour 6 jours 7 nuits, ensuite Junior et Sawira ? Luxe simplement par éthique journalistique, Quentin est allé vous poser la question directement dans la rue.
Et il faut reconnaître un truc que j'ai découvert hier, les franco-marocains ne sont pas bavards quand ça concerne Mohamed VI, c'est même un tabou d'en parler, surtout au micro d'un média français. Alors j'ai arpenté les rues pour tenter de vous livrer ce complètement à la rue quand même, ce sera dans la prochaine demi-heure, Mathieu.
Du Maroc, vous connaissez les plages des Sawira, la place Jemaa el Fna et les jardins de Majorelle, mais c'est bien. Mais est-ce que ça sera suffisant pour triompher dans le Zoom Zoom Test ? Certainement pas. Un quiz spécial secret du Maroc. Et non, Quentin, votre imitation de Raled sur Aïcha ne vous sera d'aucun secours puisqu'il est algérien, comme chacun le sait. Chacun le sait, Quentin.
Non, je ne fais pas ça.
Oui. Juste avant 17h, nous serons rejoints par l'éclopée la plus drôle de France, Lisa Perriot. Après 17h, il faudra rester à l'écoute, on scannera l'actu du jour, avec notamment un éclairage sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Mais d'abord, direction donc le Maroc. Thierry Oberlé, je l'ai évoqué rapidement en vous présentant, Mohamed VI, un roi malade, vous commencez votre livre là-dessus. C'est le secret le mieux partagé du royaume. Tout le monde le sait, mais personne n'a le droit d'en parler, c'est ça ?
Je pense que tout le monde s'en est rendu compte au Maroc, puisqu'il a perdu des dizaines de kilos en quelques années. Et maintenant, on le voit de moins en moins, il a commencé à disparaître des écrans, déjà qu'il n'était pas très bavard. Maintenant, on l'entend deux fois par an, au maximum, et on se rend compte qu'il est souffrant. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a eu un communiqué de son médecin qui indiquait qu'il a mal au dos.
C'est donc, tout, c'est un mal de dos, on n'en sait pas plus.
Donc il ne pourra pas assister, pense-t-on, à la finale de la CAN et remettre le trophée, peut-être au Maroc, qui est une très bonne équipe. Et donc ce roi malade se fait de plus en plus distant et discret.
La couverture de votre livre représente Mohamed VI avec des lunettes de soleil, et c'est pas seulement pour le style, c'est qu'il en a vraiment besoin, des lunettes ?
Oui, il a eu une opération aux yeux assez anodine, mais qui le contraigne et qui l'a contraint à porter des lunettes de soleil.
Distant, malade, un règne opaque. S'agit-il d'un livre sur Mohamed VI ou bien sur Cyril Lacarrière ? On finit à la lecture par en douter. Thierry, je vous présente un autre dirigeant autoritaire extrêmement énigmatique, notre rédacteur en chef, capable d'afficher une joie de vivre insolente, avant, cinq minutes plus tard, de se refermer comme une huître barbue dans sa coquille, renfrognée comme Maurice, le père de Belle, quand il apprend qu'elle est prisonnière de la bête. Sur quel Cyril allons-nous tomber aujourd'hui ? On va le découvrir. Bonjour Cyril.
Je suis d'humeur constante.
Vous êtes de mauvaise humeur tout le temps.
Vous êtes souvent de bonne humeur et parfois vous changez radicalement.
Ah, parce que vous m'agacez.
C'est vous m'agacez. Alors Cyril, racontez-nous, puisqu'aujourd'hui vous êtes de bonne humeur, ça qui est fou. Mohamed VI, d'où ça sort ?
Imaginez un chef d'État qui ne donne aucune interview, jamais ou presque jamais. Un roi qui règne sur un pays de 37 millions d'habitants, mais qu'on aperçoit plus souvent en selfie sur Instagram, en jean et lunettes de soleil dans les rues de Paris que dans les représentations officielles. C'est le paradoxe marocain. Un souverain silencieux, secret, absent même, mais dont le portrait est absolument partout, du petit café de Tanger aux administrations de Casablanca. Un roi insaisissable qui navigue entre le Moyen-Âge et la jet-set moderne. Mohamed VI, c'est le produit d'une éducation impitoyable, élevée au bâton, littéralement, et la construction d'un homme en négatif de son père, le roi Hassan II. Un homme au verbe haut, à la main de fer, redouté par sa population. Son fils, lui, est introverti, timide et fuyant. Quand Mohamed VI monte sur le trône en juillet 99, à 35 ans, c'est un choc générationnel. Il casse le protocole, il vire le harem royal, on le surnomme même très vite le roi des pauvres, parce qu'il va sur le terrain, dans la boue, voir les oubliés du royaume. Mohamed VI devient M6, un roi cool.
Mais un roi cool, rattrapé par son destin et sa fonction.
Une fonction qu'il occupe dans une sorte de mi-temps thérapeutique. Un roi qui gouverne par coup de sang ou par communiqué. Un roi qui s'est mué en homme d'affaires redoutable, qui contrôle une immense partie de l'économie de son pays. Et un roi, on va en parler, à la santé fragile. Un roi qui s'est entouré d'une cour étrange, très éloignée des standards du protocole, comme des champions de MMA devenus les gardiens de son intimité. Alors, d'où ça sort Mohamed VI ? C'est bien de l'histoire d'un homme qui n'avait pas le tempérament pour le job, mais qui n'a pas eu le choix que de l'accepter. Et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Alors Thierry Bellet, on va peut-être commencer par là. Vous émettez d'ailleurs l'hypothèse dans votre livre. Est-ce qu'on peut dire que Mohamed VI est un roi malgré lui ?
C'est un roi qui n'a pas eu le choix. Donc à partir de là, il a été éduqué pour exercer le pouvoir. Dès son plus jeune âge, il est entouré en fait au collège royal d'une quinzaine de camarades qui ont été choisis dans le pays parmi les cerveaux les plus brillants de toutes les classes sociales et qui vont devenir son entourage. Et cet entourage est toujours présent à ses côtés.
Ah bah il est fidèle au moins en amitié.
Oui. C'était le principe d'éducation qui avait été mis en place par Mohamed V pour son fils Hassan II. Mohamed VI vient de faire la même chose pour son fils, qui sera donc le futur Hassan III. Bien que cette fois-ci, peut-être qu'il ne s'entourera pas de ses camarades de classe.
Et est-ce qu'il y aura les coups de bâton aussi pour cette génération qui vient ? Ou il a eu les coups de bâton aussi, le prince, ou pas ? Parce qu'apparemment, donc... Mohamed VI, il a vécu ça
dans une des rares interviews qu'il a données, il apparaissait plutôt comme un père bienveillant.
D'accord. Dans ce côté-là, c'est différent. Est-ce que vous racontez qu'Hassan II doutait parfois quand même de la capacité de son fils à lui succéder ?
Oui, et on ne sait pas. Est-ce qu'il voulait l'aguerrir ? Ou est-ce que vraiment il avait un doute sur sa capacité à régner ?
Mais pourquoi ? À cause de son caractère ? À cause de quoi ? Il avait des doutes ?
Parce que c'est quelqu'un de à l'époque en tout cas de timide, de très introverti, mais en même temps qui avec ses potes était quelqu'un de très cool et de sympathique. Mais est-ce que ça suffisait pour en faire un roi ?
Il n'avait pas ce charisme de leader.
Et donc, il y a le doute qui s'est instillé. Et à Paris, je me souviens à l'époque de son accession au règne, certains pariaient en disant qu'il ne terminerait jamais son règne. Il y avait des doutes dans la classe politique, dans la française.
Il n'était pas prêt ? En 99, quand il prend le...
Il était prêt. il n'avait pas de... C'est-à-dire que son père ne lui avait pas appris à régner avec lui. Mais il avait monté son équipe, là, avec, avec sa bande de, du collège. Et c'était avec une vision politique qui était de, d'ouvrir le pays, de, d'être... de suivre, en fait, la voie qu'avait ouvert son père à la fin de son règne, qui, après avoir réprimé violemment, avait fini par ouvrir, à ouvrir la voie, justement, aux oppositions et à son fils, pour qu'il ait un règne dégagé, où il y avait finalement une constellation de... une bonne... les étoiles qui se réunissaient au moment où il est arrivé. Mais maintenant, enfin, avec le recul, la fin du règne de Hassan II était plus libérale que
Le règne actuel,
que ce qui est un peu la fin de règne de Mohamed VI.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Même si l'annulation n'était pas sans frais, je n'ai pas hésité. Quand Cyril m'a proposé qu'on fasse une émission sur Mohamed VI, j'ai accepté de renoncer à ma semaine annuelle à la Mamounia pour donner la parole à Thierry Oberle, grand reporter qui publie un livre, Le mystère Mohamed VI, chez Flammarion. Thierry, on a parlé de l'arrivée au pouvoir de Mohamed VI en 99. C'est quoi, il faut peut-être revenir là-dessus, le pouvoir réel du roi au Maroc? C'est pas juste symbolique comme en Angleterre. Il a un réel pouvoir, le roi du Maroc.
Le roi du Maroc est un roi exécutif. Il y a eu un changement dans la constitution en 2011 à la suite des printemps arabes. Ses pouvoirs ont été légèrement réduits au profit du premier ministre et du gouvernement. Mais dans la réalité, c'est le roi et le palais qui gouvernent, en tout cas dans tous les secteurs...
importants stratégiques.
Quelles étaient
tous les secteurs d'État.
Quelles étaient les aspirations des Marocains lorsque Mohamed VI monte sur le trône en 99?
Il y avait beaucoup d'espoir.
Il y avait beaucoup d'espoir parce que il se présentait comme le, enfin, il était présenté par par son entourage comme le roi des pauvres, et il était considéré même qu'il pouvait faire des miracles.
Mais comment on passe de ce roi qui va les pieds dans la boue marcher à la rencontre des gens à ce Mohamed VI de 2026
qui lui s'est enrichi? Je ne sais pas s'il y a moins de pauvres au Maroc.
Il y a moins de pauvres au Maroc. Hein.
Donc ça, il faut
le souligner. Mais les problèmes de fonds, de développement n'ont pas été réglés. Qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, c'est une sorte de désengagement. Au milieu de son règne, dans les années 2010, il donne l'impression de, pour parler un peu de manière simple, lâcher l'affaire.
Mais pourquoi?
Il a pris de... c'est le mystère.
Il était plein de bonnes volontés.
C'est-à-dire qu'il y a une bonne volonté, ouais. Mais après il fallait mettre en application cette politique, et il va falloir à ce moment-là souvent contrarier des intérêts qui sont ce qu'on appelle le marzen, qui est le palais, en fait, qui est le pays profond, et enfin l'État profond, et celui qui gouverne, et qui gouverne depuis très longtemps.
Et ça, il n'a pas pu s'attaquer
pays,
à ça.
Qui gouvernait même pendant la colonisation française.
Et justement, on l'a évoqué d'un point de vue personnel, vous parlez d'un roi qui s'est immensément enrichi, vous estimez sa fortune à plusieurs milliards de dollars. Par quels moyens il a réussi cette opération?
Alors, sa fortune a été estimée par le magazine Forbes a entre 4 et 6 milliards de dollars en 2014. À partir de 2014, il y a eu un phénomène particulier. Il s'est retiré, en fait, ses entreprises se sont retirées de la bourse de Casablanca, donc on ne peut plus les estimer. Ce qui permet, en fait, de rendre opaque le montant de sa fortune. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis cette période, en fait, il y a eu une... les gens qui s'occupent de son argent ont su très bien jouer sur la financiarisation de l'économie mondiale. Et en fait, ces entreprises qui appartenaient à son père ont été restructurées. Il y a beaucoup d'exploitations. C'est le plus grand agriculteur du pays, le roi. C'est lui qui a le plus de terres. Et ça existait déjà sous son père, mais ça a été rationalisé sous son règne. C'est-à-dire qu'il y a un système qui va de la plantation de la tomate jusqu'à la vente de la tomate en supermarché, dans des supermarchés qui appartiennent au roi. Et d'une certaine manière, donc les sujets du roi sont aussi ses clients. Donc c'est un système qui est défendu par le palais en disant que ces entreprises sont un peu vont être le moteur de l'économie, vont booster les autres entreprises, et ce qui est une notion assez contestée parce que pour d'autres économistes. Ils considèrent qu'en fait, il y a une concurrence déloyale, puisque les arbitrages, que ce soit pour l'octroi de marché ou des arbitrages sur la concurrence déloyale, la personne qui va émettre son jugement a été nommée par le roi. Alors donc, elle peut être indépendante, mais il y a quand même des possibilités de pression qui sont extrêmement fortes. Donc tout ceci... A pu aider l'économie, mais c'est aussi un frein considérable.
Bravo Mathieu d'avoir osé parler de Mohamed VI à l'antenne. Si tous les journalistes étaient aussi intègres que toi, l'Arcom n'aurait même pas besoin d'exister. Telles sont certainement les réactions que Quentin a recueillies dans la rue lors de son micro-trottoir. Mais pour en avoir le cœur net, demandons-lui directement. Quentin, les passants que vous avez croisés, ils en pensent quoi de Mohamed VI ?
Allez, je vais vous raconter. Hier, fin de matinée, je marche dans la ville agitée à la sortie d'un parc où il vient de refermer son journal qu'il a enroulé dans sa poche. J'arrête ce monsieur qui découvre le thème du jour de Zoom Zoom Zen, un roi.
Mohamed VI ?
Pourquoi on en parle, à votre avis ?
J'imagine parce que j'ai cru comprendre qu'il est aussi... Sa Majesté souffre, non ? Peut-être elle est atteinte de problèmes de santé, qu'elle est en train de préparer aussi la succession avec son fils.
C'est vrai que l'une des premières choses qui vient à l'esprit, c'est sa santé. Samedi dernier, la MAP, l'agence officielle marocaine, a communiqué sur l'état de santé de Mohamed VI. Je cite « Sa Majesté, le roi souffre d'une lombosciatalgie mécanique associée à une contracture musculaire sans aucun signe de gravité », dit le communiqué officiel. Je lui parle à ce monsieur de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment au Maroc, qui s'est d'ailleurs qualifié hier soir pour la finale, et aussi de la Coupe du Monde en 2030 qui se profile, et de cette Gen Z de 112 qui s'est soulevée il y a quelques mois en dénonçant des beaux stades, mais pas de moyens dans la santé ou l'éducation.
Bah, y a la Gen Z aussi ici hein, qui s'est remue aussi.
Oui.
Et qui reçoit en échange ce que l'on sait. La répression est terrible ici en France. On n'a pas de leçon à donner au Maroc. Sûrement pas. Non. En matière de liberté, de démocratie, mais qu'on se regarde ici. Bon, je suis calme parce que mon cœur ne peut pas se permettre des accès de colère. Voilà ce que ça m'inspire. Et ça va aller. Comme ça.
Bonne journée.
À vous aussi.
Vous savez, je sens que le sujet tend un peu, que ça ne se passera pas, ce sera pas si facile d'évoquer le roi du Maroc. J'essaie avec ce jeune homme maintenant.
Le roi du Maroc ?
Eh oui. Mohamed VI.
C'est ça. Moi, je pense que on ne peut pas juger le travail d'un dirigeant seulement d'un point de vue externe, comme on essaye de le faire là tout de suite, moi et vous, parce que un dirigeant, il a beaucoup plus de profondeur dans sa réflexion, il a une profondeur économique, il doit voir dans le futur, il doit avoir une vision.
Alors ça a été quoi sa vision à Mohamed VI, à votre avis ?
Vous devriez lui poser la question directement à lui.
Bah j'adorerais. Bah oui, qu'on m'organise une conférence de presse avec Sa Majesté. Je sens que le sujet ne l'amuse pas, et ce micro dans la rue non plus.
Ce genre d'interview ou ce genre d'émission, malheureusement, vise à extraire une information ou une phrase rapidement pour avoir un scoop, mais en réalité, ça marche pas comme ça. Il faut poser du contexte, il faut des heures de réflexion du pays.
Je suis pas certain que j'aurais eu un scoop en faisant un micro-trottoir là-dessus.
Oui, je sais, vous voyez ce que je veux dire.
Je passe une tête maintenant dans la cuisine d'un restaurant marocain parisien et je discute du Maroc.
C'est le Maroc, c'est Marrakech, c'est mon Marrakech. C'est une ville agréable, c'est une ville où il y a beaucoup d'épices, il y a beaucoup d'artisanat, il y a beaucoup de... Moi, je travaillais beaucoup avec mon père, qui était dans l'artisanat, nous, on est une famille d'artisanat marocain. Voilà, c'est un pays d'artisanat, il y a une chaleur humaine incroyable, que malheureusement, je n'ai pas encore trouvé nulle part.
Au moment où je sors mon portable, où on peut lire le nom du roi du Maroc, elle me fait signe de couper le micro et me remercie, elle refuse de continuer l'échange. Je sors donc et je croise la route de ce monsieur.
Bah, quand vous me dites Maroc, je pense à la façon dont j'ai été accueilli au Maroc, c'était merveilleux. Il y a une chaleur qui se dégage sitôt qu'on arrive à l'aéroport de Marrakech, c'est extraordinaire. Mmh. Et puis je pense aussi aux saveurs, aux odeurs qui se dégagent, des épices qui sont magnifiques. Aujourd'hui, quand on rentre dans un restaurant à Marrakech, c'est d'abord le nez. Ensuite, les yeux, c'est merveilleux, la déco, enfin, j'adore, quoi.
Ce monsieur a succombé au charme du Maroc, clairement. Qui a fait du tourisme un pilier de son économie. La carte postale séduit, les inégalités un peu moins.
Bah, moi, j'ai connu le Maroc il y a de nombreuses années. C'était pas tout à fait la même chose que maintenant. Il y a eu un développement extraordinaire. Quand vous allez à Marrakech aujourd'hui et que vous y êtes allé il y a 20 ans, vous ne reconnaissez plus rien. C'est le fruit d'une politique qui a été mise en œuvre depuis de nombreuses années et qui, finalement, amène ce qu'on voit aujourd'hui, ces résultats magnifiques. Voilà. Bah moi, vous savez, j'ai une vision d'étranger. En tant qu'étranger, je vois un souverain qui règne sur son pays et qui le fait avancer à grande vitesse. Et c'est très bien.
Ma dernière rencontre, c'est un petit cadeau. Un monsieur d'1m90, fin, dans son long manteau beige, qui semble fendre la foule comme ça. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Jean-Marie.
Jean-Marie, vous venez d'où ?
Je viens de mon travail et je rentre chez moi. Parce qu'en fait, je travaille à Beauvais, mais ma femme et mes enfants sont ici. Donc je fais de temps en temps les allers-retours pour moi et mes enfants.
C'est quoi votre métier ?
Je suis préfet de l'Oise.
Seulement 24 heures après une excellente chronique sur le club de ski de Beauvais, voici cette rencontre, qui l'aurait cru. Je lui parle de Mohamed VI.
Ah, le roi du Maroc.
Oui.
Oui, alors je le connais pas.
Non. Vous êtes le préfet de l'Oise quand même.
Ah, je le connais pas quand même. Ah, il a un domaine dans l'Oise, donc il vient de temps en temps, mais globalement je le connais pas.
Est-ce qu'elle est belle la propriété dans l'Oise ?
Écoutez, je l'ai pas visité, donc j'en sais rien. Voilà.
Il aime Beauvais ?
Alors c'est pas à Beauvais même, mais oui, il doit y aimer l'Oise, certainement.
Et c'est ici que je repense au jeune homme de tout à l'heure. Voilà le scoop de ce micro-trottoir. Le roi du Maroc aime l'Oise. Et ça, ça valait bien la balade compliquée autour d'un tabou que j'avoue avoir vraiment découvert hier.
Merci Quentin. Thierry Oberlé, je ne dis pas que ce qu'on a entendu est évidemment représentatif de la population française en général, mais c'est frappant quand même ce tabou dont parle Quentin, même pour les franco-marocains qui vivent en France. C'est propre à Mohamed VI, ce tabou autour du roi du Maroc, ou c'était aussi le cas avec son père, Hassan II ?
C'est propre à la monarchie chérifienne. Il y a un respect du roi. Jusqu'il y a peu de temps, c'était carrément une sacralité. Il est considéré comme le... Enfin, c'est depuis Hassan II. Il est considéré depuis Hassan II comme descendant du prophète. Donc, il est commandeur des croyants. Et il y a tous les ans, une cérémonie qui se passe en juillet... qui consiste à faire allégeance au roi. Et le roi, au cours de cette cérémonie, ne peut pas toucher le sol, puisqu'il est l'ombre de Dieu sur terre.
Alors comment il fait ?
Donc il est à cheval.
Ah oui.
Mais depuis les problèmes de santé du roi, il est dans une magnifique décapotable américaine, debout.
Debout,
et puis la cérémonie a été un peu allégée, on va dire.
Bon, ce premier monsieur me parle en premier de la santé de Mohamed VI, on a aussi parlé tout à l'heure. Je vous ai lu le communiqué de la semaine dernière. Quel est son réel état de santé selon vous ?
Je vais vous dire que j'en sais rien. Le roi a quitté le Maroc début novembre à peu près pour ses vacances, des longues vacances. Il a été...
On ne l'a pas vu de la canne.
On sait qu'il est allé à Dubaï longuement, qu'il est passé à Paris. On dit qu'il semblerait qu'il ait visité aussi le nouveau musée du Caire. Est-ce qu'il est plus malade qu'avant ? Je ne pourrais pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est depuis le début de la CAN, c'est son fils qui apparaît. Mm-hmm. C'est lui qui a donné le coup d'envoi de la première rencontre, d'ailleurs. Mais je me pose la question si c'est pas aussi il y a pas un marketing politique, c'est-à-dire de préparation de l'arrivée au pouvoir de Hassan III, qui arrivera un jour ou l'autre, et d'autant plus avec ce contexte de football où Hassan III représente la génération Z, puisqu'il est il a 22 ans, et les joueurs de foot de l'équipe marocaine, qui est une équipe gagnante, sont eux aussi de la génération Z. Et après, il reste le problème de la population marocaine, qui pour l'instant, les jeunes sont enthousiasmés, puisqu'ils sont dingues de foot, comme tous les Africains. Et après, il y a peut-être des lendemains qui déchanteront.
Et quels sont les rapports de Mohamed VI avec la France? On l'a entendu dans le micro-trottoir, il a un domaine dans l'Oise, il y va souvent. C'est quoi, c'est sa résidence secondaire, la France?
Non, Betz, c'est un château qui avait été acheté par son père, qui était très généreux avec les habitants du village. Et le fils, il lui avait construit une aile dans le château. Le fils y allait quand il était gamin, on l'a vu quelques fois dans le village, mais il n'a jamais vraiment accroché, à part les chevaux, parce qu'il y a une écurie là-bas. Et on ne l'a pas vu à Betz depuis plusieurs années. Il a failli y aller il y a 2 ans, mais finalement, d'après l'épicière du coin, il n'est pas venu parce qu'il était malade. Mais en fait, il y avait eu les préparatifs, tout était prêt. Mais en revanche, il est à Paris.
Oui, c'est ça, il va beaucoup à Paris.
Paris, c'est sa ville de cœur, une ville qu'il aime beaucoup.
Il est où quand il est à Paris, on sait?
Il est à Paris. Au début, il était, enfin, très longtemps, il était dans les grands hôtels
d'ultra luxe.
Et il a acheté un appartement. À côté de la tour Eiffel. Je n'ai pas le droit de donner l'adresse.
Mais vous la connaissez, vous avez même le digicode. Mais voilà. Ça, vous nous la donnerez juste hors antenne pour déconner.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
C'est peut-être enfin le jour de chance de Quentin. Un quiz sur le Maroc, pays qu'il adore, pas tant pour ses paysages que pour les opportunités commerciales qu'offre le royaume de Mohamed VI aux entrepreneurs aventuriers de l'URSSAF, comme lui. Quentin, qui en a vendu des polos Lacoste avec un logo hippopotame aux puces de Saint-Ouen, sans parler de ses baskets Balenciago qui sentaient encore les épices. Donc Manon, puisque vous ne pouvez compter que sur moi pour le gai savoir, je vous propose un quiz spécial Mon Maroc à moi. Quentin, vous pouvez jouer aussi si vous n'imitez pas Faudel. Jouons au Zoom Zoom Test. À la découverte de ces pays. À la découverte de ce pays, Quentin, que je considère personnellement comme un des plus beaux au monde, contrairement à notre rédacteur en chef, Cyril Lacarrière, qui refuse de s'y rendre et préfère découvrir le Maghreb tranquillement dans son salon en écoutant Musulmane de Michel Sardou.
Non, mais on la passe pas.
Deux visions clairement différentes du voyage. Et notre balade marocaine, démarre au XVIIe siècle. Nous sommes en 1699 et le sultan Moulay Ismaël, qui est à la tête du royaume, envoie son émissaire à la cour de Louis XIV pour signer un traité bilatéral. Mais une fois rentré au Maroc, ce dernier va conseiller à son sultan de porter une perruque, parce que même si c'est pas l'idéal au Maroc vu la chaleur, c'est la mode. Demander la fille du roi soleil en mariage parce que c'est bon pour le business, ou couper les ponts avec la France en raison des mœurs décadentes que l'émissaire a découvert là-bas. Voilà, ça picole jour et nuit, on dirait Manon Mariani, aurait-il ajouté, profondément choqué.
B.
C.
Ah, vous pensez que les mœurs l'ont choqué?
Peut-être.
Mais c'est que Manon Mariani n'était pas née à l'époque.
Non, j'ai compris, mais c'est pour l'exemple.
Oui, on m'a pas cité.
Non, c'était un choix malin, effectivement. C'était un choix intelligent, mais ce n'était pas la bonne réponse. Bonne réponse de Manon Mariani. Réponse B. En bon ambassadeur, Abdella Benaïcha repère Marie-Anne de Bourbon, princesse de Conti, fille légitimée de Louis XIV et de sa favorite Louise de la Vallière. Et à son retour, le voilà qui vante les mérites de l'héritière et d'une alliance stratégique avec la France auprès de son souverain, déjà à la tête d'un harem de 500 concubines. Après réflexion, le sultan décide d'écouter son conseiller et fait officiellement sa demande à Louis XIV, qui va l'envoyer paître. D'après vous, pour quelle raison? Le business avec le Maroc n'intéresse pas le roi soleil, qui souffre d'agueusie ou absence de goût. Les épices, il s'en fout. L'allergie au soleil de la princesse de Conti, rendant sa vie au Maroc impossible. Ou tout simplement Louis XIV, roi buté, à l'esprit étriqué, intolérant des autres cultures, n'était pas emballé par le concept de la polygamie.
C'est
A.
Louis XIV, sûr qu'il n'a pas eu plusieurs femmes, la polygamie, il est vraiment très choqué.
Bah, il est avec une femme.
Ah, oui, oui.
Officielle.
C'est une bonne réponse de Quentin. Ah. Bonne réponse. Oui, contrairement à notre rédacteur en chef, Sidi Lacarrière, qui a une femme à Paris, une dans le Luberon et encore une en réserve dans la Navy américaine, Louis XIV était très choqué par le concept de polygamie. Il avait donc décliné la proposition du sultan Ismaël. Il lui avait d'ailleurs dit « c'est un sultan ».
Ah. C'est un jeu de mots?
Oui.
Très bon.
Merci, un point bonus pour Quentin pour flagornerie. Mais
j'ai pas entendu, on me parlait dans l'oreillette.
Oui, il y a un excellent jeu de mots.
Mais ça avait l'air génial,
Quentin
Mathieu.
Vient de marquer un point.
Ils ne font que vous parler dans l'oreillette, c'est normal que vous ne l'ayez pas
entendu. Attention, et ils vous souffrent parfois les bonnes réponses. Attention, nous arrivons déjà à la troisième question du quiz et toujours aucune question sur les États-Unis d'Amérique. En régie, vous l'entendez, Cyril s'impatiente. Mais comment réussir à placer les États-Unis dans un quiz sur le Maroc? Eh bien, comme ça. La France, vous le savez, parce que vous n'êtes pas aussi inculte que je le raconte, a offert la Statue de la Liberté aux États-Unis en signe d'amitié. Mais figurez-vous que les États-Unis auraient pu, dès 1777, offrir une statue de l'oncle Sam au Maroc. Selon vous, pourquoi? Le Maroc a été le premier pays avec lequel les États-Unis ont signé un accord commercial en tant que nation indépendante. Le Maroc a envoyé des troupes combattre les Anglais bien avant Lafayette. où le Maroc a été le premier pays au monde à reconnaître l'indépendance des États-Unis.
C'est
A.
Que se passe-t-il, Manon? Aujourd'hui, Manon.
Ah, mais je sais pas.
C'est une débandade pour vous.
Ouais, bah écoutez.
Alors que Quentin triomphe. Bonne réponse de Quentin. Réponse. Tout à fait, tout à fait. Oui, Cyril. Enfin, là, en l'occurrence, c'est plutôt les Marocains qu'il faut féliciter que les Américains, puisque oui, ce sont eux qui, les premiers, ont reconnu l'indépendance des États-Unis et dit fuck aux Anglais. Il faudrait donc que vous interprétiez plutôt l'hymne marocain avec votre flûte. Ou pas, ce n'est peut-être pas nécessaire, je crois que vous ne l'avez pas Cyril. Car nous devons avancer dans le quiz.
Il met
toute son énergie, c'est beau. Et pour terminer, justement, une lueur au bout du tunnel pour Pénélope, notre stagiaire qui se demande souvent à quoi bon endurer les brimades de son supérieur hiérarchique direct, Pierre Courade.
Va faire la soupe, salope.
Qui lui parle hyper mal,
ça va
qui
pas.
Plus est avec la voix de Guigui, ce qui n'a vraiment aucun sens. Si c'est pour finir un jour, comme lui, à publier des stories de neige et se faire percer l'oreille pour sa crise de la quarantaine. Car avant de devenir souverain, eh bien, Mohamed VI aussi, comme Pénélope, est passé par la case stage. Mais chez qui a-t-il fait un stage? À la Mutuelle de Poitiers? Et c'est pas un hasard. Chez Jacques Delors, parce qu'il aimait la déconne? Ou chez DSK, parce qu'il aimait aussi la déconne?
Oh, B chez Delors?
Mais Quentin, vous avez été moins vif sur cette dernière question. Vous êtes reposé sur vos lauriers, c'est Manon qui m'a
répondu.
C'est Manon qui a répondu. Ah bon, pas du tout.
Non, c'est Quentin en fait.
Ah, c'est vrai. Ah pardon.
Même elle a l'impression.
Ah pardon, même notre invité.
Oui,
complètement à l'ouest. Bon, alors encore une bonne réponse de Quentin, bravo, il a été encore plus rapide. Effectivement, bravo. De novembre 88 à juin 89, Mohamed VI a été en stage auprès de Jacques Delors, président de la Commission européenne. Alors, pas en stage chez lui dans son appart, mais à la Commission européenne, dirigée par le président Delors. Victoire sans appel. Mais je crois que c'est une première.
Triomphale.
Victoire triomphale de Quentin. Ouais. C'est la première fois en 650 émissions.
J'ai gagné une nuit à la Mamounia.
Non, vous n'avez rien gagné du tout. Je pense qu'on n'ira plus.
Avec Mathieu, donc.
Le lit est très grand. Le mystère, c'est le titre du livre que notre invité, le grand reporter Thierry Oberlé, consacre au roi du Maroc, Mohamed VI. Thierry, le Maroc, on l'a dit, accueille actuellement la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Elle accueillera aussi des matchs de la Coupe du Monde de foot dans quelques années. Ça, c'est quand même une belle victoire pour Mohamed VI. On peut mettre à son crédit pour le peuple marocain, très porté sur le foot, c'est quelque chose d'énorme.
Oui, tout à fait, ça fait partie de cette stratégie de soft power qui s'est développée au Maroc et qui est plutôt réussie, puisqu'ils ont réussi à obtenir également la co-organisation de la prochaine Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal, et aussi à construire une équipe de foot qui tient la route.
Et ils ont, le roi,
bien sûr, il a créé une académie royale de football, dont sont issus à peu près un tiers des joueurs qui ensuite partent à l'étranger.
Oui, mais il y a une vraie formation.
En Espagne, en France, etc. Mais il y a une vraie formation et il y a eu une vraie démarche stratégique qui était sur le terrain, dans les stades, construire les stades et aussi diplomatiquement obtenir l'organisation de ces grandes manifestations.
C'est un roi, Mohamed VI, effectivement, qui parfois disparaît, un roi timide, on l'a dit. Mais il y a aussi un activisme diplomatique étonnant. Par exemple, sur le Sahara occidental, par exemple. Quand même pas rien d'avoir obtenu ça. Enfin, comment il se bat? Il a des certains combats qu'il privilégie. Qu'est-ce qu'on sait de ça?
C'est-à-dire que la question du Sahara occidental, c'est un vaste désert de cailloux. Ça a une importance pour la construction de l'identité nationaliste marocaine très importante. Et c'est une idée qui avait été développée par Hassan II, qui s'est mis à occuper ce territoire au moment de la décolonisation, du départ des Espagnols, revendication par les Sahraouis. Et une occupation de fait, et pendant tout le règne de Mohamed VI, ils ont investi des sommes folles pour réussir à développer ce pays extrêmement ingrat. Et dans le même temps, ils ont mené ces dernières années des offensives diplomatiques et une stratégie diplomatique qui a été victorieuse, parce que je pense que le Mohamed VI a eu le flair de comprendre qu'on rentrait l'arrivée de Trump 1 puis Trump 2, que le droit international comptait de moins en moins, et ça il l'a saisi, et ensuite une fois qu'il a eu le soutien de Trump, en échange il a signé les accords d'Abraham avec Israël. et il s'est placé un peu dans l'orbite des pays du Golfe, et c'est toute une stratégie qui s'est trouvée, qui a été gagnante, parce qu'après, il suffisait juste de convaincre les Européens. Et pour convaincre les Européens, ils n'ont pas hésité à avoir des méthodes de diplomatie extrêmement musclées. Ils ont fait plier l'Espagne en ouvrant les vannes de l'immigration clandestine. Ils ont fait plier finalement Macron, qui a accepté de reconnaître le Sahara occidental sans aucune contrepartie.
Dernière petite question, people, mais peut-être pas que, ça m'avait un peu échappé, mais Mohamed VI, il est divorcé depuis 2018, il était marié à la princesse Lala Salma. On sait ce qui s'est passé, on sait ce qu'elle devient ?
Oui, il y a eu un divorce dans des conditions un peu pénible pour elle, puisqu'elle était victime d'une campagne extrême de dénigrement, extrêmement violente dans les médias, dans certains médias marocains. Et on considérait même qu'elle avait disparu, qu'elle avait peut-être été assassinée. Dupond-Moretti, qui était l'avocate de la famille, a fait un communiqué pour dire non, elle est vivante, mais ils ont divorcé. Ils ont divorcé, et en fait, elle est à Rabat, elle vit à Rabat, mais elle fait plus partie de la vie du roi.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47. L'heure de découvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une révolte aujourd'hui. Nous sommes en décembre 2010 en Tunisie. Un jeune vendeur ambulant de 26 ans, Mohamed Bouazizi, s'immole par le feu devant un bâtiment administratif après la confiscation de sa marchandise par la police municipale. Un geste de désespoir après des années d'humiliation et d'impossibilité de travailler légalement. Sa mort va déclencher un mouvement historique, le printemps arabe. Après cet événement atroce, une série de soulèvements populaires traversent le monde arabe, tout part de Tunisie, mais la contestation se propage très rapidement. Les images circulent sur tous les réseaux sociaux, des milliers de jeunes dans la rue face aux autorités qui tentent de les réprimer violemment parfois. Eux, ils veulent de la justice sociale, plus de liberté politique et la fin de la corruption. Une jeunesse urbaine qui se rassemble pour dénoncer des régimes autoritaires installés parfois depuis des décennies. Les conséquences sont immédiates. En janvier 2011, le président tunisien Ben Ali fuit le pays. En Égypte, après 18 jours de mobilisation sur la place Tahrir, Hosni Moubarak est contraint de démissionner. En Libye et au Yémen, les soulèvements dégénèrent en conflits armés, provoquant la chute de Muammar Kadhafi et le départ d'Ali Abdallah Saleh. En Syrie, la répression violente des premières manifestations pacifiques plonge le pays dans une guerre terrible, mais il faudra attendre fin 2024 pour que Bachar el-Assad soit obligé de fuir. À l'époque, le printemps arabe est présenté comme un tournant historique, mais 15 ans plus tard, le bilan est beaucoup plus contrasté. En Égypte, l'armée a repris le pouvoir dès 2013. En Libye, l'État reste très fragmenté avec des milices rivales. En Syrie, le régime s'est maintenu au profit d'un conflit dévastateur. Même la Tunisie, longtemps considérée comme l'exception démocratique, a vu le pouvoir se recentraliser autour du président Kais Saied. Et puis, il y a la situation assez particulière du Maroc. Là-bas, le printemps arabe est plutôt appelé le mouvement du 20 février. Plusieurs grandes villes se sont mobilisées pour réclamer plus de liberté et moins de corruption. Le roi Mohamed VI leur a répondu par une réforme, on en a parlé, constitutionnelle, adoptée par référendum qui apaise petit à petit la contestation. Mais dans les faits, il n'y a pas eu de grands changements. La monarchie conserve l'essentiel des leviers, les libertés restent encadrées. Le mouvement s'éteint sans transformation politique majeure. L'ONU rappelle aussi que le printemps arabe a donné lieu à des violences atroces. Des civils non armés ont été délibérément pris pour par les autorités dans plusieurs pays. Une situation qui rappelle tristement ce qui est en train de se passer en Iran.
Merci beaucoup Manon.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Lui qui n'a d'habitude pas sa langue dans sa poche, il lui arrive même de l'avoir dans des endroits assez insolites, dirait GC, il n'a pas émis le moindre commentaire négatif concernant le Maroc et son régime dans son livre, véritable bible des voyageurs, Adios les Bibaros.
C'est vrai.
Un silence qui peut signifier deux choses, soit Pierre Courade est une couille molle, lui qui avait incendié le Cap-Vert, soit Pierre Courade a mis le drapeau du Maroc pour frimer dans sa bio Insta sans jamais avoir foutu les pieds au Maroc. Pierre, quelle que soit la vérité, de toute façon avec vous, on ne la connaîtra pas. Vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit sur Mohamed VI en une minute chrono.
Je suis allé 3 fois au Maroc, hein, je compte bien y retourner, un projet sur lequel a mis une croix notre invité, le grand reporter Thierry Oberlé, qui vient de sortir une enquête sur l'homme que l'on voit plus en photo dans le royaume qu'en vrai, le roi Mohamed VI. Le monarque règne sur le Maroc depuis 1999, depuis la mort de son père, l'omniprésent Hassan II, l'ancien roi qui doutait de la capacité l'incapacité de son fils à régner. Mais Mohamed VI n'a pas eu le choix. Difficile pour lui d'assumer la charge de son père. Thierry Oberlé note des absences fréquentes, des voyages à l'étranger qui s'éternisent, des séjours en France très réguliers, si bien qu'on ne l'entend plus que deux fois par an au mieux. Et s'il se désengage progressivement des affaires publiques depuis les années 2010, ses finances, elles, se portent bien. Le roi serait à la tête de plusieurs milliards de dollars. Un industriel qui était pourtant qualifié de roi des pauvres au début de son règne. Et même si la pauvreté a reculé au Maroc, nous a précisé notre invité, les infrastructures manquent. La révolte de la Gen Z en septembre en est la conséquence. Cette nouvelle génération qui arrivera au pouvoir à travers le futur Hassan III, le fils du roi que l'on voit aujourd'hui plus que son père. Et puis on a évoqué le secret le mieux gardé du Maroc, la maladie du roi. Officiellement, Mohamed VI souffre d'un mal de dos. Mais Mathieu, vous serez d'accord, cela ne nous regarde pas.
Cela ne nous regarde pas. Deux livres à conseiller, donc Adios les Bibaros et surtout, je dirais, Mohamed VI, le mystère de notre invité Thierry Oberlé. Merci Pierre. Nikit Sampal, vous êtes une créatrice de contenu pour adultes et vous revenez nous voir aujourd'hui parce que... Et pourquoi vous revenez nous voir d'ailleurs?
Salut Matt, trop cool d'être ici. Et puis une petite caméra planquée dans un coin avec cinq hommes et une femme, ça me rappelle mes débuts sur Internet. Donc c'est trop chouette. Alors cette fois, je ne viens pas vous parler de sexe, non, désolé, mais falolo. Je viens de parler du livre de Thierry sur le roi Mohamed VI, parce que je lis, en fait, oui, je lis pas que mes messages sur Pornhub. Pas sur Pornhub, sur comment, OnlyFans, voilà. Bon, Quentin, arrête pas de me harceler, arrête. Je vais te répondre plus tard. Donc, votre livre, Thierry, sur le roi Momo, vous y allez pas de main morte, hein. Et je sais de quoi je parle. C'est pas très gentil comme vous le critiquez, je trouve. Vous croyez quoi, que c'est facile d'être roi? Vous en voulez au roi du monde, c'est ça? Parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent? Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Dans leur château, là où ils s'ennuient. Pendant qu'en bas, nous, on danse toute la nuit. Moi, je fais l'amour. C'est pas le thème du jour. Thierry, faut arrêter de critiquer avant de connaître. Vous voyez, moi, je connais très bien la culture marocaine parce que j'ai fait toutes mes retraites de yoga là-bas. Après, je sais, il n'y a pas que le yoga au Maroc. Il y a le surf. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré le roi Momo. On est devenus des besties, enfin genre en mode meilleur copain.
Niki, vous affabulez là.
Vous affabulez. Matt, c'est quoi le plus important? La vérité ou que ça fasse des vues sur Internet? Voilà. Donc, moi, je viens de voir que Trump, il avait dit qu'il était président du Venezuela et de Clermont-Ferrand. Ça passe. Donc, je vois pas pourquoi. Vous savez, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Croyez-moi. Enfin, je parle de la rumeur. Hein. Pas de...
Oui, je sais.
Enfin, là, parce que là, ça faisait une référence
à
la gestion de crise diplomatique au Venezuela par les institutions européennes. Pardon de me répéter. Alors, ce que je voulais vous dire, rassurez-vous, Thierry, c'est que je ne vais pas vous faire un bad buzz sur votre livre. En revanche, je voudrais le 06 du prince, le fils de Momo, le prince Hassan. Il m'assassine. Avec ses yeux de braise, là, je l'ai vu donner un coup d'envoi sur un terrain de foot avec plein de pelouses autour. Là, vous savez qu'il est prince et colonel de l'armée de l'air. On est clairement fait pour s'entendre. Le mec, c'est un spécialiste en avion de chasse. Hello, right here. Alors, je sais ce que tout le monde va dire. Si jamais, si je me mets en couple avec le prince Hassan, on va me dire Niki. T'es avec le prince Hassan, attention, il va te prendre tout ton argent. Mais pas du tout. Vous inquiétez pas. Je sais, je suis une businesswoman, oui. J'ai des vidéos, des abonnés, mais les vidéos, je pourrais pas faire ça toute ma vie, vous savez. Hein, j'ai 25 ans, la retraite, c'est pour bientôt. Je commence à avoir des rides aux orteils, donc oui, il y a le collagène, mais ça fait pas tout. Je sais que c'est la fin. Sexe, c'est pas le thème du jour. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? C'est décidé, oui. Je veux être princesse, parce que j'ai toutes tes compétences et que même si on parle pas la même langue avec Hassan, je sais qu'on arrivera à se comprendre.
Il parle français au Maroc.
Il parle français au Maroc, tellement drôle. Mais je pourrais très bien me convertir en marocaine parce que, alors, juste, il y a un truc qui me choque, c'est que dans la rue, à chaque fois, on veut m'acheter pour deux camels. Je dis, ok, non, je veux pas deux paquets de clopes. Enfin, je veux un prince, en fait. Je suis une princesse, je mérite un prince. Comme Jasmine avec Jafar.
Vous voulez dire Aladdin?
Ah mais c'est vrai qu'il finit avec le clodo. Moi, jamais j'aurais choisi Aladdin. Je vous ai dit, je suis un avion de chasse. Moi, je veux pas d'un tapis violent. Voilà. Bref. On fait un truc. Donc, un deal. Thierry, oui. Vous me donnez le 06 et moi, je fais la promo de votre livre sur mon groupe.
Sur OnlyFans.
Non, dans mon book club. Vous savez, j'ai un club de lecture. Je vous ai dit que je lisais. Pensez qu'au sexe, Matt.
Merci quand même, sacré Niki. Et surtout, merci. Merci, Elisabeth.
Et Moustier.
Là, je veux dire que j'ai une réaction à la Michel Drucker. Sacré Niki. Hein. Bon, merci Lisa Perrier. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom et dans votre spectacle à partir du 4 février, quand vous serez en état de marcher sans claudiquer.
Exactement.
À Paris, à la Nouvelle Scène et en tournée un peu partout en France. Merci beaucoup Thierry Oberlé d'avoir compromis nos prochains séjours au Maroc. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître chez Flammarion, Mohamed VI, Le Mystère. Merci d'avoir été avec nous. Zoom Zoom Zen.